La santé, c'est l'affaire de tous.
C'est l'affaire de tous, votre santé, notre santé sur Phare FM Montauban. C'est le nom de votre émission tous les 15 jours avec notre médecin référent désormais, vous le connaissez bien, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo.
Salut Samuel, bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien et je suis très content parce qu'on va recevoir quelqu'un qui va nous apprendre beaucoup de choses intéressantes sur la préparation pour une chirurgie.
C'est exactement ça le thème du jour, programme de récupération amélioré après chirurgie. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le docteur Benjamin Le Gaillard, anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de Montauban. Bonjour docteur.
Bonjour.
Le programme est très intéressant aujourd'hui. Edmundo, docteur Le Gaillard, vous avez la parole et nous vous écoutons avec un grand intérêt encore.
Nickel, merci beaucoup Samuel. Bon, merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté de participer de cette émission. Ça va être très intéressant parce qu'on va parler effectivement des programmes de récupération améliorés après la chirurgie, on va dire hack pour faciliter un peu. Alors, avant de commencer à poser des questions, Benjamin, est-ce que toi, tu peux te présenter?
Oui, merci tout d'abord pour votre invitation, hein, pour ce sujet tant important pour bien se préparer à une chirurgie. Je suis anesthésiste, comme tu l'as dit, à l'hôpital de Montauban, ça fait 6 ou 7 ans, de formation toulousaine, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'anesthésie et tout ce qui gravite autour. Alors la nutrition m'intéresse aussi, la douleur, je pense que c'est une part très importante dans toute une préparation et une organisation d'une intervention. Et voilà, ces thématiques m'ont toujours bien intéressé et je suis très heureux de pouvoir en discuter aujourd'hui.
Nickel, parfait, nickel. Alors, si tu es d'accord, Benjamin, pour faciliter un peu les réponses, chaque fois qu'on parle de RAC, ça veut dire programme de récupération amélioré après la chirurgie. Est-ce que tu es d'accord qu'on utilise le terme RAC pour faciliter un peu, pour pas être obligé de parler en allonge un peu?
Très bien, c'est parfait.
Parfait. Bon, on va commencer aux questions. Benjamin, est-ce que tu peux définir la RAC?
Bien sûr. C'est la première chose qu'on va faire, c'est une méthode ou un programme périopératoire, voire même un parcours de soins qui vise à la reprise d'une autonomie active et complète du patient le plus rapidement possible après sa chirurgie. Alors, l'élaboration de ces protocoles se fait en 3 phases pour le patient. On va avoir une phase préopératoire, c'est-à-dire avant l'intervention, une phase péropératoire pendant l'intervention et la dernière post-opératoire. Alors, selon l'autorité de santé, cela représente une démarche d'amélioration de nos pratiques pour toutes les équipes de chirurgie. Ça nécessite pas mal d'efforts pour nous, une réorganisation et du partage au sein de nos équipes, impliquant tous les acteurs, les médecins, les soignants, et puis même aussi un peu plus de partage de plus en plus entre les équipes hospitalières et celles de la ville. Voilà. Et au fur et à mesure des organisations, on progresse pour améliorer ces préparations pour nos patients. Les grands thèmes autour de ces protocoles de RAC, ce sont une information, une bonne préparation du patient à cette démarche, à cette intervention, une anticipation de l'organisation des soins et de la sortie, c'est-à-dire vous sortez après 3 jours d'hospitalisation avec telle ordonnance, tel médicament, avoir une infirmière prévue au domicile et le kiné. Tout cela, dans le but de retrouver une rapide autonomie. Et je rajouterais que c'est différent de la chirurgie ambulatoire, d'une hospitalisation ambulatoire qui est effectivement une forme de RAC également, mais dont la durée d'hospitalisation est de moins de 12 heures.
Nickel. Merci beaucoup pour cette définition très complète. Et la RAC, elle est apparue comment?
Alors, ça fait presque un peu plus de 30 ans, dans les années 90. C'est une équipe danoise, celle du professeur Henrik Kellett, qui va élaborer les premiers protocoles de réhabilitation de RAC. Ces premières études vont se centrer sur la récupération après la chirurgie du cancer colorectal. En fait, le professeur Henrik Kellett estime que la principale question que doit se poser le praticien et surtout le chirurgien est pourquoi le patient reste hospitalisé. Et ça, il doit se poser cette question un peu chaque jour. Alors, il va concentrer ses recherches sur la douleur post-opératoire, qui est un peu la pièce angulaire quand même d'une récupération après une chirurgie. En deuxième point, la reprise alimentaire. Et en troisième, la mobilisation précoce. Le fait de se lever ou d'aller au fauteuil au minimum après l'intervention. Cela va aboutir au terme qu'on va appeler fast track en anglais, hein, ou réhabilitation précoce. Et ces études vont montrer, et on en reparlera peut-être sur d'autres questions, un véritable intérêt pour le patient, avec une réduction des complications, une amélioration de la récupération et par conséquent, une réduction de la durée de séjour post-opératoire.
Nickel, parfait. Et on voit qu'effectivement, ça fait quelque temps qu'IlaRAC existe. Et pour qui, pour quel type d'intervention, pour quel type de patient, on peut appliquer l'IlaRAC?
Alors, plus que pour qui, car elle n'est pas proposée à une certaine catégorie de patients, elle sera proposée à des types d'interventions ou de chirurgies. Alors, 5 spécialités sont souvent représentées. On a la chirurgie orthopédique, la chirurgie digestive, la chirurgie gynécologique, les césariennes programmées et puis l'urologie. Pour notre établissement, les chirurgies de prothèses hanches et genoux, les chirurgies du cancer colorectal, les césariennes, les hystérectomies, alors c'est l'ablation de l'utérus, sont les principales chirurgies soumises à ce type de protocole depuis 6-7 ans environ. Donc en conclusion, elle s'adresse à n'importe quel patient, quel que soit l'âge, en chirurgie programmée. Mais l'extension est parfois possible pour des chirurgies en urgence ou semi-urgence. L'exemple d'une césarienne, l'exemple d'une prothèse de hanche dans un contexte d'urgence sur un traumatisme. La différence, c'est que l'équipe ne pourra peut-être pas mettre en place tous les éléments habituels du protocole.
D'accord. Effectivement, tu as déjà parlé, tu as déjà défini, tu as déjà parlé un peu d'historique et pour quel type d'intervention. Et quel est le but de l'IlaRAC?
Alors, ça va représenter un intérêt tout d'abord pour le patient. Le concept de RAC est basé sur le constat que l'agression chirurgicale est responsable de beaucoup de modifications hormonales, métaboliques, physiologiques qui vont ralentir la convalescence. Et donc la capacité du patient à retourner à son domicile. Donc deux grands objectifs. D'abord, pour le patient, réduire l'agression liée à la chirurgie et le stress ou la douleur liée aussi à l'anesthésie. Alors que stress et douleur, ce sont deux choses qui sont intimement liées dans notre cerveau. Réduire l'agression pour la chirurgie par le biais de chirurgie mini-invasive, notamment pour les prothèses. Par la célioscopie pour les chirurgies viscérales ou en urologie, et réduire le stress par l'anesthésie qui est toujours de plus en plus adaptée, spécialisée, avec des médicaments mieux tolérés, des protocoles antidouleurs plus efficaces. Voilà, les études sur la réhabilitation montrent pour les patients bénéficiant des protocoles de RAC une réduction des complications, une amélioration de la récupération et une réduction de la durée de séjour post-opératoire. Ensuite, l'autre raison, c'est aussi économique, puisque les réductions de morbidité, donc on va dire des complications, hein, et les réductions de durée de séjour vont permettre de faire directement des économies en frais de santé. En prenant l'exemple d'une complication post-opératoire, qui peut multiplier parfois, ou même je dirais, le plus souvent par 2 la durée de séjour, avec une nuit à 1 500 €, bah, les économies sont rapidement faites. Donc, en fait, tout le monde est gagnant, quoi. Praticien, personnel, patient et puis sécurité sociale.
Parfait, parfait. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est quelque chose complète et complexe. Et en réalité, qui s'occupe de l'IlaRAC?
Alors, je dirais en premier, hein, que c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a en général un, voire deux initiateurs ou coordinateurs de RAC. C'est eux qui vont écrire le protocole. Le plus souvent, ça va être le chirurgien et ou l'anesthésiste. La bonne réalisation de ce programme dépendra de plusieurs acteurs de santé. Le chirurgien qui, dès la consultation, le chirurgien informera le patient des bénéfices de ce type de protocole. Il faut qu'il incite le patient à y adhérer, hein. Le patient pourra passer entre les mains ensuite de kinésithérapeutes, d'infirmières, participer à des réunions de groupes de patients, voire même bénéficier d'une hospitalisation de jour. La deuxième grande consultation, ben, ce sera celle avec l'anesthésiste, hein, dans le but d'évaluer l'état de santé du patient, de le réinformer de la bonne préparation et des consignes préopératoires. En cas de consommation d'alcool ou de tabagisme, ben, on l'informera des bénéfices d'un sevrage de plusieurs semaines, hein, ça peut aller de 3 à 6 semaines pour avoir des vrais effets bénéfiques. L'alimentation va être un point important. Pour une prothèse, ça peut être intéressant plutôt de perdre du poids. Ou pour une chirurgie de cancer, plutôt intéressant de gagner du poids pour améliorer les ressources en cicatrisation. On peut organiser aussi des consultations avec d'autres spécialistes ou généralistes qui peuvent être motivés pour optimiser l'état de santé avant l'intervention. Un nouveau poste a même été créé, celui de l'infirmière de réhabilitation. Ces infirmières sont vraiment essentielles à la mise en place de nos protocoles parce qu'elles sont presque dédiées qu'à cela. Ces infirmières vont accompagner le patient tout au long de son programme préopératoire et post-opératoire. Voilà, elles les contactent, elles répondent à leurs questions, elles vérifient que les rendez-vous sont bien pris et que tous les points du protocole sont bien réalisés. Donc en comparaison, parce que bon, Edmundo sait, mais c'est vrai que j'aime bien le sport, ça parlera peut-être à certains patients sportifs ou pas d'ailleurs. Et c'est un programme comme chez le sportif, hein, que l'on souhaite préparer à une grande compétition, peut-être l'une des plus importantes de sa vie. Voilà. Il faut une structure organisée avec peut-être un kiné, un nutritionniste, un diététicien, des compléments alimentaires, de l'homéopathie pour certains, un médecin pour vous soigner des petites blessures qui pourraient un peu entraver la réussite de tout ça. Et chaque petit élément, mis bout à bout, va compter et permettre vraiment d'avoir le meilleur résultat. Voilà. Au cours de l'intervention, les grands rôles, effectivement, c'est aussi le chirurgien et l'anesthésiste hein, qui vont mettre en place les traitements les plus récents, les moins invasifs, hein, afin de permettre de récupérer au mieux. Et puis, en post-opératoire, les infirmières du service rempliront largement leur rôle, hein, parce qu'elles vont vous aider à vous lever, à vous dire quand reprendre les boissons et l'alimentation, à faire tous les soins nécessaires. Tant qu'on est à l'hôpital, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir le passage des kinésithérapeutes, de la diététicienne, voilà, bénéficier de la marche et de l'aide pour être dans le couloir. Voilà. Le but, c'est vraiment d'éviter de rester dans sa chambre. Les Danois, eux, avaient bien compris ça, il y a déjà pas mal d'années. C'est eux qui sont initiateurs vraiment de ces protocoles. Ils ont carrément eux-mêmes hein, créé des espaces communs pour les repas hein, et des espaces avec une télévision. Hein, il n'y a pas de télévision forcément dans la chambre. Il peut y avoir une salle de sport. En gros, c'est tenue de sport et pas de télé dans les chambres. Tout ça pour vous mobiliser et vous bouger un peu plus rapidement. Voilà. Au retour au domicile, le suivi ensuite est assuré par le chirurgien. Alors maintenant, par des coups de fil, des questionnaires à distance et puis une bonne coopération avec le personnel de la ville. Donc, c'est vraiment tout un travail d'équipe pluriprofessionnelle.
Nickel, parfait. D'ailleurs, pour revenir à l'histoire du sport, il faut qu'une prochaine fois, tu viennes parler des bénéfices de Swim Run, parce que je sais que tu es un spécialiste dans ce domaine. Voilà, c'est vrai que c'est par rapport à tes réponses, on voit quand même que tu as bien parlé de la participation de l'équipe, toute une organisation qui est faite au niveau de l'hôpital. Et quel est le rôle joué par le patient?
Eh bien, il fait clairement partie de l'équipe. Voilà. L'idée, c'est même qu'il ait un rôle central puisque c'est celui qui va être opéré. Alors, on dit qu'il faut qu'il soit plus acteur, donc un peu moins passif, mais investi totalement, voilà, dans sa prise en charge. On change un peu de dogme, hein, parce que avant, c'était le médecin paternaliste qui dit fais comme ci, fais comme ça. Maintenant, il faut mieux participer et puis vous verrez que ça vous aidera au maximum. Par la participation, on augmente les compréhensions autour de la chirurgie, on diminue le stress, qui est encore une fois, je répète, étroitement lié avec la douleur. Et l'adhésion du patient est indispensable à une bonne réussite du protocole. Après, le patient peut être aussi aidé par son entourage, les aidants, la personne de confiance, qui seront eux aussi impliqués dans le programme pour préparer au mieux le retour à la maison.
Parfait, parfait. C'est vrai que nous, quand on avait fait cette émission, on voulait plutôt adresser à la population. La population, ça veut dire tout le monde. Mais Pour nos collègues, consoeurs et confrères qui nous écoutent, et aussi pour la population générale, est-ce que tu pourras parler un peu de cette mise en place de ce protocole RAC à l'hôpital de Montauban? Quelle est l'activité au niveau du centre hospitalier de Montauban qui toi, tu, je sais que tu as été un très dynamique, tu as été un des précurseurs, hein, c'est toi qui as beaucoup œuvré pour mettre en place. Est-ce que tu pourras décrire cette activité au CH de Montauban?
Ah oui, c'est vrai que c'est assez passionnant. Les deux premiers protocoles qu'on avait mis ensemble hein, au point pour le centre hospitalier. Alors c'était des protocoles pour les prothèses de hanches et genoux. Alors protocole pour lequel on a mis en place des éléments hein, comme on a dit pour diminuer le stress avant l'intervention. Bon, facilement mise en place du jeûne moderne. Hein, ça veut dire qu'on peut manger jusqu'à 6 heures avant une intervention. On peut boire jusqu'à 2 heures avant. Sauf problèmes médicaux avec des ralentissements de la vidange gastrique. Plus récemment, tu nous as bien aidé à mettre en place hein, avec les casques de réalité virtuelle. Voilà, et donc maintenant, des patients peuvent bénéficier de ce type de casque pendant l'anesthésie, si c'est une péridurale, enfin, chez anesthésie, et même pendant l'intervention, hein, tout ça dans le but de diminuer stress et douleur après l'intervention. L'autre protocole assez intéressant, c'est vrai, c'est celui pour les césariennes, hein, programmées, mais parfois mis en place aussi pour les césariennes semi-urgence, pour lequel on favorise hein, le rapprochement mère-enfant sans exclure le père, puisqu'il peut être présent pendant la césarienne. Et puis, on essaie de faire en sorte que tout le monde soit présent, si possible, en salle de réveil pour se retrouver, voilà, quand c'est possible et qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle de réveil. Avec l'aide des sages-femmes, on a donc optimisé la RAC hein, pour que les patientes soient plus rapidement autonomes, qu'elles puissent plus facilement s'occuper de leur bébé. C'est fini la reprise tardive de l'alimentation. Hein. Maintenant, on peut manger dès son retour en chambre. Et même un peu plus précocement, hein, parce que c'est jus de pomme en salle de réveil et puis une douche le soir même de l'intervention. Les résultats sont quand même vraiment importants. D'abord avec des raccourcissements de durée de séjour. L'apparition plus récemment d'hospitalisation en chirurgie ambulatoire pour des chirurgies de prothèses. C'est vrai que c'était pas vraiment imaginable il y a quelques années. La réduction d'un ou deux jours d'hospitalisation pour les césariennes. Maintenant, on est plutôt à 3 ou 4 jours d'hospitalisation. Et puis, indirectement, hein, ça a permis pour les patients et le personnel hein, que tout le monde soit impliqué et vraiment très satisfait. Et puis, on a deux, trois autres protocoles. C'est vrai qu'on a aussi la chirurgie du cancer colorectal pour lequel on a vraiment réussi à accélérer la reprise alimentaire au jour même, faire en sorte de ne plus avoir de redon pour les patients. Donc, ça va simplifier leur mobilisation après l'intervention. Les patients restent maintenant souvent moins d'une semaine. Et puis la chirurgie d'ablation de l'utérus hein, avec des hospitalisations qui est aussi entre 1 et 2 jours le plus souvent. Là, je vous parle, c'est vrai, des bons exemples. Donc, à contrario, tous ces items ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Je prendrai l'exemple du pédibus, hein, qui est l'exemple typique d'item pour maintenir au maximum la dignité et l'autonomie de nos patients. Le patient descend au bloc opératoire à pied avec le brancardier. Et ça lui permet donc d'être plus acteur de son passage au bloc opératoire. Ça permet bien souvent de faciliter la communication avec le personnel, hein, plutôt que d'être allongé dans son lit et de regarder le ciel ou plutôt le haut du couloir, le plafond. Cet item n'est pas facile à mettre en place parce que entre les problèmes de tenue de service, alors c'est vrai qu'on a tous l'image d'un patient avec les fesses à l'air, hein, si on n'a pas une tenue adaptée. Les problèmes de mobilité de certains patients qui ont du mal à marcher, les habitudes du personnel qui sont bien ancrées depuis des dizaines d'années, le problème d'attente debout devant notre bloc opératoire parce qu'on n'a pas de salle d'attente, le problème de transport des lits hein, parce que c'est un peu les allers-retours des lits aussi également avec. Et ben on a encore des difficultés à faire beaucoup de pédibus. Donc tous les patients n'en profitent pas. Mais un maximum de patients peuvent bénéficier. On a recueilli un peu les statistiques. On a près de 50% maintenant des patients qui peuvent descendre à pied et c'est vrai qu'on voit clairement une satisfaction des patients de descendre voilà sous cette forme. On leur a permis aussi, grâce à ça, de descendre, parce que pour marcher, hein, c'est plus pratique d'avoir les lunettes, les prothèses auditives et ça permet bien sûr de faciliter la communication.
Parfait, nickel. C'est vrai que c'est ça paraît être très intéressant. Et déjà avec ton expérience et l'application en pratique de la RAC, dans quelle mesure on peut dire que la mise en place de cette RAC, elle était vraiment efficace?
Point crucial, parce que pour chaque protocole, on va définir une grille d'action, hein, une sorte de checklist, hein, comme en aviation. Ça représente souvent pour les protocoles 20 à 30 items à mettre en place, de la phase préopératoire à la phase post-opératoire. Et si l'on souhaite que le protocole soit réellement bénéfique, bah, il faut espérer cocher bien 70 à 80% des items. Alors, ça a été montré par certaines études qu'en l'absence d'un certain nombre d'items remplis, bah, il y a peu ou pas d'effet bénéfique sur les complications et la durée de séjour. Donc, bah, on insiste avec l'équipe, avec le personnel, le patient, pour que ça soit voilà ce travail d'équipe. Parce que si une partie des items n'est pas faite, on a des risques que ça ne marche pas bien. Donc voilà, tout le monde est impliqué. C'est donc l'ensemble des mesures prises pour un protocole qui seront efficaces. Ça joue un peu au détail, hein, clairement. Mais c'est à l'image du sportif qui veut réussir. Il faut tout prendre en compte pour maximiser les chances.
D'accord. Et pour développer les RAC, quelles sont les perspectives qu'on a pour le développement de la RAC?
Ben, on a déjà bien avancé. Voilà, la médecine a beaucoup progressé. Il va être difficile de réduire encore, je pense, les durées de séjour par la technique ou les simples médicaments. Je pense qu'il faut continuer à prendre plus en compte le patient, son stress, son éducation dans les soins, son aide pour le retour au domicile. Bref, une prise en charge encore plus spécialisée à la personne et pas à la chirurgie. Voilà. L'amélioration, maintenant, elle devrait jouer, je pense, au niveau de la bonne préparation du patient, par la prévention d'un bon état de santé, mais aussi des outils numériques là qui permettent la surveillance spécifique au domicile. Et enfin, améliore la communication avec les praticiens de la ville avec lesquels on s'est un peu éloigné là depuis quelques années.
Nickel, c'est parfait. C'est vrai que c'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, on voit parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, on pourra pas tout aborder parce que le temps passe tellement vite. Il va falloir, Benjamin, que tu viennes une prochaine fois. Mais on va prendre quelques-unes. Est-ce que l'utilisation, tu as parlé des moyens, d'une gomme à mâcher en chewing gum, ça sert à quoi?
Alors, les chewing gums, c'est 15 minutes de mastication toutes les 2 heures. Et ça permet une reprise plus précoce du transit dans les chirurgies abdominales et gynécologiques. Et indirectement, ça va permettre de diminuer les douleurs, la consommation d'antidouleurs et les vomissements. Donc voilà, c'est une action par stimulation nerveuse entre un nerf vague et le cerveau et qui va par la sécrétion de facteurs hormonaux, neuronaux, qui vont agir sur les différentes parties du système gastro-intestinal.
Alors, bon, malheureusement, j'ai droit à une seule question. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la RAC?
Pas de contre-indications. Ce qu'on fera pour le patient, c'est essayer vraiment de cocher le plus d'items possible. Voilà. Il peut y avoir une contre-indication, un ou deux, trois items, malheureusement. Hein, mais voilà, on essaiera de tout faire au mieux pour que le protocole soit le plus appliqué possible.
Est-ce que la RAC diminue vraiment les possibilités de vomissement dans le post-opératoire?
Oui. Alors, directement déjà, le plus souvent par l'utilisation systématique dans ces protocoles de médicaments contre les nausées et les vomissements. Et puis, indirectement, avec nos protocoles, l'amélioration de l'utilisation de nos agents d'anesthésie, de nos antidouleurs, en les ciblant plus, en adaptant les posologies, et on sait qu'ils sont assez pourvoyeurs de vomissements, donc en progressant là-dessus, bah, indirectement, on diminue les vomissements.
Parfait. Bon, Benjamin, c'était tellement intéressant que cet entretien, c'était fast-track aussi, hein, on n'a pas vu le temps passer, hein, c'était tellement rapide. Est-ce que tu as une dernière considération à nos auditeurs?
Oui, qui se prépare le mieux possible. La phase préopératoire, c'est vrai que c'est pour moi la partie la plus intéressante avant une chirurgie. Hein. Donc, bien s'intéresser aux consignes, se préparer le mieux possible au niveau de son état de santé, et puis après, on s'occupera du reste pour aider le patient.
D'accord. Bon, un grand merci, Benjamin, docteur Benjamin Le Gaillard. Un grand merci, Benjamin, de ta participation, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et on espère que dans un futur proche, on puisse t'avoir à nouveau pour apporter aussi des renseignements très intéressants que tu nous as donnés aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te passe l'antenne, Samuel.
Merci beaucoup à vous deux. Encore une émission très riche et très intéressante, docteur Le Gaillard. Peut-être une prochaine fois. Et vraiment, merci pour vos interventions.
C'était avec plaisir et une bonne expérience.
Merci beaucoup, Edmundo. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission.
Nickel. Merci beaucoup, Samuel. Et bonne journée à tous nos auditeurs.
Très bien. À bientôt.
À bientôt.